vous n'êtes pas venu voir un réanimateur, hein, c'était une blague hier. Je suis médecin généraliste. Et donc, l'usage veut maintenant que l'on déclare nos conflits d'intérêts lorsque l'on intervient en public. Donc, je déclare que je n'ai pas de conflit d'intérêts ici. Je ne présente pas une recherche, je vais présenter plutôt des réflexions comme ça qui sont nées de mes différentes pratiques. Et ce que je voudrais exposer ici, c'est comment l'accompagnement d'un patient vers la guérison par un médecin généraliste est un acte de résistance. Donc, ici, on se place dans la biomédecine. Donc, la biomédecine, c'est une science basée sur l'expérimentation et basée sur l'objectivité. Donc, la biomédecine s'occupe des processus physiopathologiques, en gros de la maladie, et le malade devient un porteur de maladie. Il n'est pas vu comme... il est un peu accessoire, finalement, si on se place dans l'angle pur de la biomédecine. Et il me semble que là, on a un des points d'achoppement entre les sciences dures et les sciences molles, par exemple, où il me semble que la maladie est vue comme un processus dans la biomédecine, et du coup, la société, la culture, la psychologie, etc., s'est vue un peu... comme un ensemble, comme les grosses patates là, qu'on voyait en sixième ou en cinquième sur nos tableaux de mathématiques, un peu figé, et que je brosse à gros traits, parce que je veux vous emmener à un endroit, donc je suis obligée d'aller vite sur certains trucs, donc il y a des trucs qui ne vont pas être subtils du tout. Mais l'idée générale, ce serait que les sciences sociales verraient plus la culture, la société et la personne comme des processus en évolution permanente, et parfois la biomédecine comme la grosse patate, qui est un peu figée et qui est facteur favorisant, ou pas d'ailleurs, pour la personne, la société, la culture. Je suis partie de la définition de Canguilhem, quand il dit que guérir, c'est se donner de nouvelles normes de vie, parfois supérieures aux anciennes, mais jamais identiques. Et pour moi, ça place la guérison. Et fait, donc, je me pose là dans la posture où la guérison appartient au patient, en fait. Il n'appartient pas à la biomédecine. Et il me semble que ça croise en plus l'évolution de la biomédecine, où le fait de rentrer dans la physiologie à des échelles de plus en plus petites. Donc, au départ, on part d'une personne. Ensuite, on s'est intéressé aux organes. Ensuite, on s'est intéressé aux cellules. Ensuite, on s'est intéressé aux molécules et on va comme ça toujours de plus en plus loin. Et on a déterminé tout un tas de disciplines, c'est de plus en plus spécialisé, la biomédecine. Et l'idée qui se dégage, c'est qu'il n'y a de toute façon jamais de retour à l'identique. Il y a effectivement toujours un processus. Et même si c'est un parasite et qu'on a donné le traitement antiparasitaire et qu'on ne trouve plus le parasite dans le sang, il s'est passé au niveau immunologique quelque chose qui fait que ce ne sera plus jamais pareil quand même. Donc, d'une certaine manière, la notion de guérison ancienne qui arrivait, par exemple, des Grecs et qui a traversé toute l'histoire, comme un retour à l'état antérieur, a aussi été remise en question du fait de ces nouvelles connaissances qui arrivaient. Et finalement, si on regarde dans les études, dans les essais cliniques, donc là je suis sur la biomédecine, donc dans la littérature des données scientifiques, enfin, vous allez me dire, j'ai pas fait une étude très spécifique, mais on retrouve quasiment plus le terme de guérison. On a la cicatrisation, la consolidation, la stabilisation, la rémission, le soulagement, la survie, enfin, on a tout un tas de trucs, mais pas la guérison. Et alors, du coup, je vais faire écho tout de suite à certaines interventions que j'ai entendues, parce que le terme de guérison a été utilisé, en fait. Mais il me semble que ça ne remet pas en cause forcément ce que je dis, parce qu'à chaque fois, que ce soit la guérison en cancérologie, ou c'était plutôt un usage politique pour amener les gens à croire au traitement de la guérison, ou que ce soit en Guinée, où c'est une définition virologique, et où on voit les gens qui sont comateux, ils partent avec leur certificat de guérison, on ne peut pas dire que ce soit une définition médicale de la guérison. Effectivement, quand on est face à l'urgence, ça m'est arrivé. Il faut trouver un système pour que ça circule, pour pas que ça bloque, pour pouvoir assumer le flot épidémique. Parce qu'à un moment, ça suit une espèce de courbe de Gauss. Donc quand on se retrouve avec tout le monde d'un coup, il faut qu'on ait une solution pour faire face à l'épidémie. Et la définition virologique des deux tests négatifs, effectivement, c'est une manière de dire, ça y est, il est plus contaminant, il peut sortir de notre centre où on les isole, etc. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il soit guéri, on ne peut pas dire qu'un enfant comateux soit guéri quand même si son test virologique est négatif. Donc il me semble que c'est un usage aussi particulier lié au contexte épidémique. Et puis, il y avait un autre exemple sur la guérison. Ah oui, c'était en Éthiopie. Et là aussi, la guérison, après, il y en a peut-être eu d'autres que j'ai loupées, mais dans la troisième, c'était sur l'Éthiopie. Et là encore, c'était un usage social avec, encore une fois, le certificat de guérison, mais qui n'avait pas un enjeu, ça n'avait strictement rien à voir avec la démarche scientifique, double aveugle, enfin comme l'objectivité, etc. C'était vraiment, on voit bien que, il me semble que la guérison dans ces cas-là avait un usage social et pas du tout un usage scientifique pur. Bon, voilà, après vous pourrez discuter, c'est juste ce que ça m'a fait d'écouter les deux jours de conférence. Donc, on en est tiré à la physiopathologie. Ah oui, alors quand même, la biomédecine, elle s'ancre, elle a beau parler de l'objectivité, de l'expérimentation et de tout ça, elle s'ancre quand même dans un terreau anthropologique où l'enjeu, c'est quand même la vie et la mort, donc avec toutes les angoisses métaphysiques, avec tous les fantasmes qu'il peut y avoir aussi autour de ça. Et elle n'échappe pas non plus complètement à ça, la biomédecine. Et puis l'autre caractéristique qui me semble peut-être importante à dire, mais que vous connaissez alors là franchement mieux que moi, c'est l'idée du mal extérieur dans la biomédecine. On est sur le modèle d'un mal qui est extérieur et qu'il faut extirper. Donc c'est une entité indépendante qui n'a pas forcément un sens en soi. Donc ça motive aussi, il me semble, toutes les logiques interventionnistes. Donc à chaque fois qu'on améliore nos connaissances, on se dit qu'on va pouvoir aller chercher le mal encore plus en amont et de manière encore plus précise et qu'on va toujours pouvoir un petit peu plus intervenir. Et du coup, ça donne une définition de l'homme aussi sur des valeurs quantifiables. Et c'est de pire en pire, c'est un jugement de valeur, je suis désolée, mais du coup, même par exemple, quand on entendait M. Jiami, je crois, qui disait que la norme, c'était plus l'orgasme, mais que c'était une minute de pénétration sans flaccidité, on voit bien à quel point cette quantification de l'humain prend des proportions qui sont parfois... Moi, personnellement, ça me laisse assez perplexe parfois. Et donc, on a des normes physiques, des normes comportementales, des normes affectives qui sont pas... C'est pas le fait que ce soit inédit dans les sociétés occidentales de fixer des normes par rapport à tout ça pour l'être humain, mais c'est la manière, c'est cette tentation de l'associer toujours à des valeurs quantifiables qui est assez étonnante. J'ai encore un peu de temps. Donc concrètement, on a vu les limites du double aveugle, avec toi en particulier, sur la biomédecine. On voit aussi toutes les histoires de mode, c'est-à-dire que la biomédecine, quand même, elle s'intéresse pas spécialement non plus aux besoins humains, mais du fait des financements aussi par le secteur privé, Il y a des modes, donc à un moment on va s'occuper de tel truc, on va s'occuper de tel truc, mais il y a des maladies, bah, vous connaissez bien ça, hein, vous les africanistes, là, la schistosomiase, le palu, etc., etc. Il y a au niveau de la méthodologie quand même, les fois les biais, ce qu'on appelle biais méthodologiques, c'est quand même un terme pudique pour masquer des pratiques qui sont quand même franchement pas honnêtes des fois. Il y a tout le problème aussi de ce rétrécissement. Je trouve que tu posais bien le problème hier, hein, de parler du génome et de comment on peut l'appliquer aussi concrètement à une vie. Mais c'est aussi d'aller toujours vers le plus petit et de faire des modèles à l'échelle nano. Comment est-ce qu'à partir de notre modèle à l'échelle nano, on peut dire quelque chose de ce qui se passe dans la vraie vie pour quelqu'un de sain ou pour quelqu'un de malade. Et ça pose des sacrés problèmes. Ça pose des problèmes pour des trucs aussi bêtes que la vitamine D ou le lait maternel. Donc vous imaginez quand on se retrouve avec des trucs comme les gènes ou des choses comme ça pose d'énormes questions au niveau éthique et tout ça. Ça pose la question de la norme. Alors en médecine, il y a un article de Prescrire qui est vraiment très très bien fait sur le sujet et qui fait la distinction entre la norme statistique et la norme thérapeutique. Peut-être ça vous dit quelque chose ou vous voulez que je vous dise? La norme statistique, c'est le fait de choisir une valeur et de prendre un échantillon de population qu'on considère comme normal. Et on fait toutes les mesures et on va faire comme une espèce de courbe de Gauss et on va prendre 95, ça va faire à peu près une courbe de Gauss normalement, enfin, ou au moins on s'arrange pour que ça fasse à peu près une courbe de Gauss. On prend 95% de ces valeurs-là et c'est considéré comme la norme. C'est ça qu'on va considérer comme normal. Ça veut dire qu'on accepte qu'il y ait 5% de personnes qui, lorsqu'ils ont un résultat anormal, vont être des personnes saines. Ça ne veut pas dire qu'il y a un processus pathologique. C'est juste par rapport à cette définition statistique. Donc, eux, à prescrire, par exemple, ils disent qu'il faut faire super attention à ne pas multiplier en permanence les variables, parce que quand on a 5% de risque d'être dans le groupe pathologique artificiellement sur une mesure, on se retrouve à 64% de risque d'être pathologique si on fait 20 mesures, par exemple. Donc, quand on voit les prises de sang à rallonge, par exemple, que les médecins proposent parfois, on peut du coup se poser cette question de comment on peut être inséré dans un groupe pathologique, alors qu'en fait, c'est juste la méthode statistique qui est en jeu à ce moment-là. Et la norme thérapeutique, là, c'est pas du tout la même chose, c'est le seuil d'intervention, c'est-à-dire que par rapport à une variable qu'on a choisie, quel est le seuil de la variable qu'on va choisir pour dire qu'on peut faire quelque chose pour que ça ne provoque pas un effet pathologique. Donc là, on est un petit peu dans la prévention, etc. Mais entre la norme et le seuil pathologique, d'un côté, ça n'a rien à voir, parce que le seuil pathologique, il va aussi dépendre de ce qu'on a pu définir comme pathologique et des valeurs qu'on conçoit comme pathologiques et des traitements qu'on a à notre disposition. Comme par exemple pour l'hypertension artérielle, il y a une cinquantaine d'années, la norme, elle était à 19-13, je crois, et aujourd'hui, elle est à 16-9,5, parce que les connaissances ont évolué et on s'est rendu compte qu'à 19-13, non, il y avait un danger pour les personnes. Et enfin, concrètement, la biomédecine amène ce que j'ai appelé, mais c'est peut-être maladroit, je ne sais pas, une logique thérapeutique inversée. C'est-à-dire qu'à force de partir de la macroscopie, donc on part quand même toujours d'une maladie, au fond. Mais on avance dans le processus, on va dans des phénomènes de plus en plus petits, donc en amont. Et du coup, on arrive à un endroit où la personne n'est pas encore malade. On arrive au facteur de risque de la maladie, et même maintenant, on arrive au facteur de risque du facteur de risque de la maladie. Donc la personne, elle est absolument pas, elle se sent absolument pas malade à ce moment-là. Et ça veut dire qu'on va amener un traitement, mais on en a parlé, hein, c'est revenu plusieurs fois. On traite des non-malades. On finit par traiter des non-malades. Au lieu d'amener un traitement pour une réponse thérapeutique, c'est-à-dire à une personne qui vient et qui a une plainte et qu'on va essayer de soulager, on va chercher presque la personne et on lui dit « Toi, tu vas être malade de ça, prends ça. » C'est ça que j'appelle la logique inversée. Alors voilà, sur cette biomédecine, on sait bien qu'il y a énormément d'acteurs qui interviennent. Donc il y a une marchandisation de la santé, je ne vais pas vous casser la tête avec ça. Il y a vraiment plein de bouquins qui sortent, plein d'articles. Enfin voilà, vous devez être vraiment bien au courant de tout ce qui se passe avec des conflits d'intérêts, avec un terme que j'ai appris là ici autour du colloque, le corporate science. Donc c'est ces conflits d'intérêts entre les scientifiques aussi et les marchands. Bon, évidemment, les conflits d'intérêts entre les politiques et les marchands, si j'ai le temps, j'en parlerai un peu, mais je crois que je commence franchement à déborder là, donc je vais...
Non, ça va, il
ça va encore
5-10 minutes, sans bon, problème.
Ça va. Et puis les médecins, quand même, c'est vrai qu'on parle du serment d'hypocrite des médecins, mais franchement, c'est parfaitement justifié dans certains cas. Enfin, à mon avis, je trouve que c'est plus... Enfin, du coup, là, j'ai écrit, ça n'est plus une entorse à la déontologie, c'est une gangrène. Et je crois qu'il y a vraiment un phénomène comme celui-là. Et concrètement, qu'est-ce que ça fait, tous ces acteurs qui interviennent sur les médecins, là, pour le coup? Parce que c'est quand même sur les médecins que je vais arriver, là. Je vous amène tranquillement, mais c'est aux médecins que je vais arriver. Donc, concrètement, il n'y a plus d'indépendance de formation initiale. Il y a de moins en moins d'indépendance de la formation continue. Il y a une information médicale qui n'a plus rien à voir avec les données de la science, parfois, hein, parce qu'il y a très peu de revues indépendantes. Donc il y en a, donc c'est possible, tout comme les formations médicales continues, il y en a, c'est possible, mais il faut le vouloir. C'est pas ce qui arrive en premier si on ne fait pas attention. Il y a la pharmacovigilance qui est confiée aux laboratoires pharmaceutiques de plus en plus par des biais que je pense non plus, je n'aurai pas le temps de vous présenter. Et il y a les recommandations et les guides de pratique clinique qui sont aussi de plus en plus des objets de marketing et qui ne sont plus des définitions scientifiques de ce qui se passe. On a quand même une technique qui est franchement valorisée par rapport à la clinique. Je vous cite au passage, parce qu'on a entendu parler de la médecine 4P, et nous, en médecine générale, on a le P4P. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est le Payment for Performance. Payment for Performance. Donc, la guérison n'est plus au centre du processus. L'idée, c'est plus l'efficacité, l'idée, c'est la performance. Donc c'est quand même, ça change quand même aussi quelque chose là, je trouve. Et puis, il y a toute la logique autour de l'automédication. Et surtout, il y a comme une occultation du fait que l'accès aux soins est un déterminant mineur de l'état de santé des personnes. Sur le site de l'INPES, par exemple, ils placent la classification canadienne des déterminants de santé et l'accès aux soins arrive en 10e place, bien après le niveau socio-économique, bien après l'éducation, bien après l'entourage familial, bien après... Enfin, voilà, vous tapez INPES et vous verrez ça, ça arrive en... Ça arrive rapidement. Et de fait, on fait passer sur les médecins, alors là, je glisse tranquillement de la biomédecine vers les médecins, des problèmes qui sont profondément sociaux ou qui sont des problèmes politiques. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la détermination de l'âge osseux et de comment l'âge osseux est utilisé pour avoir le titre de séjour en France, comment on étudie les histoires de risque de récidive en prison, ou même sur le syndrome d'hyperactivité sur les enfants, ça pose des sacrés problèmes sur qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on fait porter à la médecine, et que le politique évacue tranquillement. Donc l'idée de Raymond Massé sur le fait que l'État canadien utilisait des logiques humanitaires au lieu d'utiliser des logiques sociopolitiques, moi je trouvais que c'était vraiment un axe intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a parlé. Bon, alors maintenant, du coup, par rapport à ça, j'ai catégorisé, arbitrairement évidemment, les médecins en trois catégories, enfin il y en a même quatre finalement. Donc j'ai appelé le médecin normatif celui qui fait du réglage de paramètres. Donc effectivement il a toutes ses valeurs, toutes ses normes, et paf paf il essaye de ramener chaque norme, enfin chaque valeur à sa norme. Donc c'est le modèle de l'homme en bonne santé, donc ce qu'on disait un petit peu avec une quantification aussi de l'homme en bonne santé, et donc à ramener le patient au modèle de l'homme en bonne santé en réglant des variables. Ce que j'ai appelé le médecin spéculatif, alors effectivement spéculatif, on imagine quelqu'un plutôt le philosophe, moi je voyais ça par distanciation par rapport à la pratique. Et je les trouve distanciés de leur pratique médicale dans la mesure où c'est la logique, de gain qui est au cœur de leur démarche, quelle que soit la méthode employée. Donc je pense que c'est quand même une catégorie qu'il ne faut pas oublier, parce qu'ils ont quand même une place importante dans notre système actuellement. Et puis après, j'ai appelé les médecins critiques, par le fait de prendre de la distance par rapport à l'information médicale, c'est-à-dire au moins de faire la distinction entre information médicale et données de la science, donc au moins cette démarche d'aller chercher de l'information indépendante. Et du coup, je voulais vous présenter deux modèles.
Okay. Il va falloir conclure dans pas trop.
C'est vrai, mais j'en ai plus pour longtemps. L'EBM, c'est Evidence-Based Medicine, c'est revenu à plusieurs reprises ici au cours des différents ateliers, et ça a toujours été montré comme le modèle qui cherche à prouver à partir des données scientifiques l'efficacité d'une molécule par rapport à une maladie. Et en fait, historiquement, ce modèle a été construit pour être une aide à la consultation médicale plutôt des généralistes. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, donc j'ai un petit dessin, mais je peux le faire passer. Il faut imaginer quatre cercles. Donc il y a le premier cercle, c'est la maladie, donc l'état clinique du patient. Il y a le deuxième cercle, c'est plutôt les données anthropologiques du patient, son vécu, ses représentations de la maladie, son histoire familiale, enfin qui il est. Et dans le troisième cercle, donc les données de la science. Et donc ces trois cercles se croisent et l'intervention du médecin se fait à cheval sur ces trois cercles. L'idée, c'est que le médecin puisse, à partir des données de la science, trouver le traitement qui va convenir à ce patient-là qui a cette maladie-là à ce moment-là de sa vie. Et finalement, dans le modèle EBM tel qu'il est perçu actuellement et tel qu'il est présenté la plupart du temps, on a viré le cercle du patient et on a viré le cercle du médecin. Et il n'y a plus qu'une interaction entre la maladie et les données médicales. Et ça, je pense que c'est un élément important à noter. Voilà. Et la prévention quaternaire, je vous en dis deux mots si vous n'avez pas entendu parler de ça, parce que ça, c'est aussi intéressant. Vous connaissez ? La prévention quaternaire ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ils se sont emparés de ça aussi. Comme le BM, ils s'en sont emparés de la même manière, en virant les médecins et les patients. Et là, pour la prévention quaternaire, c'est parti d'une réflexion aussi des médecins généralistes, de lutte contre les pratiques biomédicales qui rendent malades ou qui font mourir. Et sur l'autre pan, c'est l'incapacité biomédicale à faire face à de vrais problèmes de santé. Donc l'idée, c'est que il faut imaginer un axe avec en abscisse le médecin, on va dire. Donc, est-ce qu'il perçoit une maladie, est-ce qu'il perçoit pas une maladie, et un axe en ordonnée avec le patient. Est-ce qu'il perçoit une maladie, est-ce qu'il perçoit pas une maladie. Donc, la rencontre, la prévention primaire, c'est ni le médecin ni le malade ne perçoivent une maladie. Donc, à ce moment-là, on fait de la prévention primaire, on va vacciner, etc., etc. Le médecin perçoit une maladie, le patient ne perçoit pas de maladie, c'est la prévention secondaire, l'hypertension artérielle par exemple, ou un début de diabète. Le patient, il ne se sent pas malade, et pourtant le médecin, il le déclare malade. Donc là, on fait la prévention secondaire. Le troisième cas, c'est quand le médecin trouve une maladie et que le malade trouve aussi une maladie. Donc là, on passe au stade de la prévention tertiaire pour éviter les complications des maladies. Et la prévention quaternaire, elle est surtout importante quand le malade, il se trouve une maladie, mais que le médecin, il ne peut pas la catégoriser dans ses catégories nosologiques habituelles. Et c'est là qu'on a le plus grand risque de dérapage avec des examens complémentaires dans tous les sens, des thérapeutiques qui vont partir dans tous les sens, des diagnostics qui vont partir dans tous les sens. Et l'enjeu de la prévention quaternaire se place à ce niveau-là. J'ai presque fini.
Oui, il faut vraiment conclure.
Donc, le médecin généraliste, il a une spécificité parce qu'en même temps, il est dans les rendez-vous ponctuels, mais en même temps, ce sont des rendez-vous ponctuels qui se déroulent logiquement sur un temps long. Il a des demandes multiples de la part de son patient. Il y a une connaissance mutuelle qui peut s'installer. Bon, il est souvent dévalorisé, mais ça, à la limite, on s'en fout. Tout ça pour dire que le médecin généraliste, enfin, tous les médecins, mais en particulier le médecin généraliste, il va être obligé de prendre une double distance. Il est obligé de prendre une distance par rapport aux données scientifiques et aussi par rapport à la biomédecine. Donc, c'est une distance par rapport à son savoir. Et il est aussi obligé de prendre une distance par rapport à son pouvoir, c'est-à-dire reconnaître l'existence de la réalité de son patient. Et donc, l'idée, c'est que si la biomédecine a tendance à résumer, a tendance à faire coller le malade à la maladie ou à évacuer le malade et à associer d'une certaine manière le malade à sa maladie, il me semble que dans les sciences sociales, parfois, on fait coller le médecin à la biomédecine et finalement, on utilise biomédecine, système biomédical, les médecins, comme un espèce de gros groupe informe, sans voir ce travail de distanciation qui est nécessaire. J'exagère, hein. Ouais.
Je pense qu'il faut vraiment
Mais là, ça y est, ouais. J'ai fini.
Okay. Merci.